Bonjour, Jean-Luc Gadreau avec vous en ce dimanche matin 8h30 sur France Culture. Soleil, rendez-vous protestant jusqu'à 9h. Une émission qui vous est proposée par la Fédération protestante de France et qui est disponible ensuite en podcast sur l'appli Radio France. La semaine passée avec le spectacle musical Les 10 commandements, l'envie d'aimer, c'était l'envie d'aimer qui sous-tendait justement cette discussion. Et ce matin, en quelque sorte, nous allons passer de l'envie à la force d'aimer, avec deux invités, d'un côté un artiste comédien, Laurent Suire, et puis de l'autre un homme sur le terrain de la solidarité, sur le terrain de cette force d'aimer, Pierre-Olivier Dolineau, le nouveau délégué général de la Fédération de l'entraide protestante. Bonjour Laurent, bonjour Pierre-Olivier.
Bonjour.
Pierre-Olivier, peut-on dire que cette force d'aimer dit quelque chose précisément de vos choix de vie, de vos engagements ?
Oui, c'est un joli thème, je trouve, pour introduire cette émission. Je pense que ça, c'est effectivement à la base de l'engagement, c'est cet amour, l'amour de l'autre, l'amour de Dieu qui conduit effectivement à s'engager et qui soutient cet engagement dans la durée. C'est-à-dire, quelle que soit la raison pour laquelle on s'engage, s'il n'y a pas cette petite graine d'amour qui maintient le feu, c'est difficile de tenir dans le temps.
Alors je reviendrai vers vous dans quelques instants, Pierre-Olivier, pour parler un peu de votre parcours et de votre travail aujourd'hui à la FEP, comme on dit, à la Fédération d'entraide protestante. Mais ce thème, la force d'aimer, c'est aussi le titre d'une pièce qui se joue depuis le 1er avril et jusqu'au 20 mai, chaque lundi à 19h au Théâtre de la Huchette à Paris, dans le 5e arrondissement, avec pour comédien Laurent Suire, une mise en scène de Franck De Smet. Et c'est aussi, bien sûr, je pense que vous l'aurez tous remarqué, le titre d'un livre, un recueil de sermons, de prédications d'église, celui du pasteur Martin Luther King. Alors avant d'en parler avec vous, Laurent, eh bien je vous propose d'écouter un extrait où l'on peut vous entendre. Il est question du pardon, ou plus précisément encore, du non-pardon.
Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous percevons la grandeur de cette prière en la confrontant avec la nature, dans la finalité de sa structure propre, impersonnelle, la nature ne pardonne pas. Devant les appels suppliants de l'homme surpris par un ouragan furieux ou le cri de l'angoisse du maçon tombant de l'échafaudage, la nature n'exprime qu'une indifférence froide, calme et sans passion. Elle doit rester éternellement fidèle à ses lois fixes et immuables. Et lorsque ces lois sont violées, elle n'a d'autre alternative que de suivre inexorablement sa voie d'uniformité. La nature ne pardonne pas. Elle ne peut pas pardonner. Ou bien, encore, comparer la prière de Jésus avec une société tout aussi peu prompte à pardonner. La société doit avoir ses étalons et ses normes. Elle doit avoir ses contrôles légaux et ses freins juridiques. Celles et ceux qui tombent en dessous des normes et celles et ceux qui enfreignent les lois sont souvent abandonnés dans un abîme sombre de condamnation et n'ont nul espoir d'une deuxième chance. Interrogez une jeune femme qui, après un moment de passion débordante, est devenue mère d'un enfant illégitime. Elle vous dira que la société est lente au pardon. Interrogez un fonctionnaire qui, dans la négligence d'un moment, a trahi la confiance du public. Il vous dira que la société est lente au pardon. Allez dans une prison et interrogez ses occupants qui ont écrit des lignes honteuses sur les pages de leur vie. Par-delà les barreaux, ils vous diront que la société est lente au pardon. Poussez jusqu'au quartier des condamnés à mort et parler avec les victimes tragiques de la criminalité. Tandis qu'ils se préparent à leur marche pathétique vers la chaise électrique, leur plainte désespérée est que la société ne pardonne pas. La peine de mort est l'affirmation finale par laquelle la société déclare qu'elle ne pardonne pas. Vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. En dépit du fait que la loi de la vengeance ne résout aucun problème social, les hommes et les femmes continuent à se plier à ces impératifs désastreux. L'histoire est encombrée des ruines des nations et des individus qui ont suivi ce chemin illusoire.
Laurent Suire, pourquoi et comment La force d'aimer sur les planches d'un théâtre ?
Alors, ça date de 2019, ou plutôt 2018, c'était les 50 ans de sa mort. J'appartiens à une église qui est l'église Saint-Marcel. Donc voilà. Et il y avait une exposition de Laz, notre pasteur, pour les 50 ans de la mort de Martin Luther King. Donc j'ai commencé à m'intéresser à Martin Luther King, à lire des biographies. Et puis je suis tombé complètement par hasard en 2019 à la librairie C'est ici, rue de Lille, sur La force d'aimer. Je savais pas du tout qu'il avait écrit ça. Enfin, voilà. Donc les prédications. Donc j'ai acheté tout de suite le livre. Je l'ai lu une fois, deux fois, et je savais que j'allais faire un spectacle dessus, tout de suite. Donc voilà, je fais partie donc des comédiens associés du Théâtre de la Huchette dans La Cantatrice Chauve, dont nous venons de fêter la 20e.
Ouais, joli.
Joli. Et j'ai acheté le livre une deuxième fois, je l'ai amené à Franck Desmet, le directeur de la Huchette, très grand comédien, qui est nommé au Molière cette année, encore une fois, qui a déjà eu un Molière. Il a lu le livre, il a trouvé ça sublime. Il m'a dit, mais tu vas faire une adaptation? Je dis oui. Et j'ai fait en fait l'adaptation pendant le Covid, tout D'accord. simplement. Donc voilà, j'ai fait l'adaptation. Après, je voulais le monter avec une comédienne. Je voulais pas que ce soit un comédien. Je voulais avoir une certaine distance. J'avais trouvé une comédienne sublime, Nicole Doguet, qui n'a pas pu le faire. Et elle m'a dit, écoute, je pense que le plus légitime, c'est toi. Donc j'ai appelé Franck. Je dis, voilà, elle peut pas le faire. Je veux bien le faire, mais il faut que tu me mettes en scène, parce que je peux pas me mettre en scène tout seul. Il a dit oui, alors qu'il est blindé de travail, et il a fait un travail magnifique dessus, et voilà, j'ai appris le texte qui est quand même assez dense.
Ouais, ouais.
Et puis on a attaqué les répètes en janvier, et on a débuté la semaine dernière.
Voilà. Martin Luther King écrivait « Nous ne devons pas être des thermomètres qui indiquent la température de la majorité, mais des thermostats qui transforment et règlent la température de la société ». C'est tout un programme qui se profile là derrière, Laurent.
Tout à fait. Ça nous parle évidemment à nous en tant que chrétiens, évidemment, mais aussi aux autres, savoir comment cette parole-là, on peut la mettre en pratique encore maintenant, alors qu'il y a de plus en plus de groupes, il y a de moins en moins d'envie d'aller vers l'autre, et comment on est anticonformiste.
Quand on va dans le sens inverse,
c'est très compliqué. Encore une fois, ce qui est formidable avec ce texte, mais qui est absolument formidable, c'est que je le dis évidemment pour le public, mais je me le dis aussi pour moi. C'est aussi pour moi énormément, comme je pense Martin Luther King se le disait aussi pour lui. Ouais. C'était pas simplement une leçon pour les autres, c'était aussi pour lui comment on peut faire ça.
Ouais.
Et je me souviens de Nicole Doguet qui m'avait dit, qui avait lu le texte, qui a dit c'est absolument sublime. Elle me dit, tu vois, c'est ce qu'on devrait faire dans la vie, mais on n'y arrive pas. Mm-hmm. Mais on va quand même essayer.
Alors justement, je me tourne vers vous, Pierre-Olivier Dolino. Cette punchline là que j'évoquais, thermostat, thermomètre, ça résonne comment pour vous ?
Moi, ça résonne parce que dans une actualité malheureusement très chaude, hein, dans une société qui bouillonne par bien des aspects, chercher justement comment on peut réguler un peu les choses, effectivement, pas juste être ce qu'on dit souvent. Alors c'était moins l'expression du thermomètre, mais on dit souvent dans le travail social qu'on n'est pas là pour mettre des pansements, mais qu'on veut aussi résoudre les causes, en fait, travailler en amont et essayer de résoudre justement les problèmes avant qu'ils se posent. Et je pense qu'effectivement un des enjeux pour nous, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionne notre société, et essayer de la faire changer, pas simplement de résoudre les problèmes une fois qu'ils sont présents, une fois que ça a explosé et que c'est déjà presque trop tard.
Tout à fait. Laurent Suire, vous êtes donc comédien, et puis en regardant votre parcours, je remarquais votre rôle dans deux films de Michael Haneke, Code Inconnu en 2000, et puis 5 ans plus tard, Le Très Beau Caché. C'est un réalisateur que vous appréciez ?
Oui, alors l'anecdote est très très drôle, entre guillemets. C'est mon agent qui me dit, voilà, tu es pris sur le film d'Haneke, donc en 2000, donc Code Inconnu. J'arrive, j'avais 3 jours de tournage, ce qui est beaucoup, et j'avais à peu près une phrase et demie à dire. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Et j'arrive sur le boulevard de Grenelle, qui fait l'ancien kinopanorama qui allait jusque... Voilà. Et je vois un travelling d'à peu près 200 mètres, un travelling latéral. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça ? J'étais avec Marc Duret, ce comédien qui est très connu. On jouait deux policiers. Et en fait, c'était un plan séquence de 10 minutes. À l'époque, c'était de la pellicule encore. Et donc, il y avait Juliette Binoche, il y avait tous les comédiens. En fait, ça lançait le film. Et là, j'ai compris pourquoi il y avait trois jours sur, voilà, sur un queue. Donc, c'était assez impressionnant parce qu'on a, donc, on a dû faire en tout, parce qu'il y avait 200 figurants, on a dû faire cette prise complète. Et puis, cinq ans après, mais vraiment, donc, le film passe, était à Cannes, cinq ans après, mon agent m'appelle et me dit, Haneke te veut absolument dans le prochain. Je dis, ah bon, ouais, ouais, absolument, tout le monde te cherche, ah bon. Donc, j'arrive, je vais voir le casting. Et je vois que c'était encore un policier, la même, je veux dire, vraiment quelqu'un d'obsessionnel. Et je crois que Marc Duret n'a pas voulu faire l'autre policier. Et il a pris un autre comédien qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à Marc Duret.
Et oui, donc il y avait une raison.
Il y avait une raison. Donc voilà. Donc et c'était avec Daniel Auteuil. Donc voilà, là j'ai eu trois jours de tournage.
Alors je profite de parler d'Haneke et de ce film Caché parce que Caché a reçu le prix du jury écuménique au Festival de Cannes en 2005. Et cette année, nous allons fêter les 50 ans de ce jury à Cannes. J'aurai le plaisir d'ailleurs de présenter un Solaël Rendez-vous Protestant sur France Culture en direct depuis le Festival de Cannes. Ce sera le dimanche 19 mai en milieu de festival à 8h30 et qui tournera en grande partie autour de ces 50 ans de ce très beau jury avec un palmarès assez exceptionnel. La Force d'aimer, donc on le rappelle, c'est chaque lundi à 19h au Théâtre de la Huchette à Paris dans le 5e arrondissement jusqu'au 20 mai. Moi je vous conseille évidemment de réserver très vite vos places et je vous propose un extrait d'une chanson avant de retrouver Pierre-Olivier Dolino et de continuer à parler avec vous Laurent. On est en 69, c'est le chanteur Pierre Selos qui chante Martin Luther King. Martin Luther King, Martin Luther King, Martin Luther King.
Il y avait du soleil, le temps était bon, il regardait le ciel depuis son balcon pour aller là-haut. Quel plus court chemin qu'une balle dans la peau. Par un beau matin,
Martin Luther King, Martin Luther King, Martin, Martin Luther King, Martin, Martin Luther King.
Mais au paradis, pour pouvoir entrer, le gardien lui dit, quel est ton métier? Je suis un pasteur. Mes brebis sont noires, y a-t-il des couleurs dans le ciel de gloire?
Martin Luther King, Martin Luther King, Martin, Martin Luther King, Martin, Martin Luther King.
J'ai crié l'amour, j'ai voulu la paix, alors que toujours les mains se fermaient quand les poings tendus voulaient le combat. Je savais Jésus à côté de moi.
Pierre-Olivier Dolino, 22 ans de Miss Pop, la mission populaire évangélique de France, où vous avez à peu près tout fait. De l'épluchage des oignons, je lisais ça dans un article, à la direction d'une fraternité. Et vous êtes aussi pasteur, et donc aujourd'hui délégué général de la Fédération de l'Entraide Protestante. Qu'est-ce que vous retenez déjà, juste en quelques mots, très rapidement, de ce parcours ?
Ce que je retiens surtout, c'est les rencontres, souvent bouleversantes, que j'ai pu faire tout au long de toutes ces années de Miss Pop.
Ouais.
Vous avez raison de souligner ce côté couteau suisse, parce que je crois que quand on est dans le travail social, particulièrement vrai à la mission populaire, mais je crois un peu dans tout le travail social, les conditions font qu'on travaille non seulement sur la précarité, mais on travaille aussi avec des outils dans la précarité. Et donc, il faut effectivement faire de la pluche, de l'organisation, de l'animation, de l'accueil, mais ce qui effectivement m'a le plus, c'est surtout la relation à l'autre dans ces années de compagnonnage.
Votre première expérience d'ailleurs avec la grande pauvreté, vous l'avez eue très jeune, avec des maraudes de l'Armée du Salut.
Oui, je crois que c'est ce qui a un peu éveillé chez moi ce désir d'action sociale. C'est effectivement dans les années, faisait les années de caté, cette expérience que le pasteur nous avait proposé d'aller faire, maraude avec l'Armée du Salut. salut. Et effectivement, ça avait été pour moi un choc. À la fois, première rencontre avec l'extrême pauvreté, enfin la très grande pauvreté, mais aussi les relations là aussi étonnantes derrière des personnes très abîmées, de pouvoir en fait avoir des moments d'échange qui étaient très profonds.
Dans un article qui vous concernait, vous disiez « Le secret de notre mission se trouve dans la qualité de la relation ». Ça rejoint là ce que vous évoquez. Ah c'est oui. Vraiment le point important, finalement.
Je ne sais pas vous sortez cette vieille pépite, mais effectivement, ça va tout à fait dans le sens de ce que je crois. Qu'effectivement, surtout dans nos, je crois dans nos associations, au-delà du service qu'on rend, même si évidemment il faut qu'il soit de qualité et on y travaille au quotidien pour s'améliorer, c'est le temps qu'on prend à la relation qui permet des fois de faire un peu des miracles et de permettre aux gens aussi de reprendre un peu le cours de leur vie en main.
Pour notre rendez-vous avec la parole, le fil rouge de cette émission, rendez-vous avec le texte biblique, vous m'avez proposé d'entendre quelques versets de l'Épître aux Romains au chapitre 1er, les versets 15 à 17, et ce texte nous est lu par Emmanuela Martineau.
J'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en l'Évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi.
Je n'ai pas honte de l'Évangile, Pierre-Olivier Dolineau. C'est peut-être l'expression forte de ces versets.
Oui, alors j'avoue que moi c'était sur la pointe du juste vivra par la foi qui est la phrase qui m'avait conduit au début de mon ministère. Mais je crois que effectivement vous avez raison de souligner cette dimension de la honte. Je crois que on est souvent un peu empêché parfois de parler de l'Évangile parce qu'on en a honte ou parce qu'on n'en trouve pas les mots, parce que on ne sait pas comment le dire, parce que c'est difficile. Je crois profondément d'annoncer l'Évangile parce que l'Évangile c'est la mort et la résurrection, mais c'est aussi la mort d'abord, le tragique, cette humiliation, ce côté d'échec d'abord, qu'on assume et qui est bien difficile justement d'assumer. En même temps, on a le plaisir et la joie d'annoncer cet évangile, de le partager avec d'autres, et c'est ce qui fait en tout cas moi mon ministère, la force de ce ministère, je crois, d'ailleurs malgré justement toutes ces difficultés, malgré tous ces échecs, il y a quelque chose qui vaut le coup d'être vécu, que c'est pas une fatalité, et qu'effectivement c'est à la bonne nouvelle qu'on est invité de partager et de témoigner.
Et Laurent, justement, en tant que comédien. La honte de l'Évangile, entre guillemets, quand on est chrétien et qu'on est dans le monde du spectacle.
C'est pas toujours simple. C'est ouais. Très sécularisé. Très, très sécularisé. Voilà, donc ça a été, même pour la force d'aimer, ça a été compliqué. Heureusement, et je le répète, j'ai eu un directeur absolument formidable qui m'a dit « Ok ». Donc voilà, maintenant, faut à un moment donné, il y a aussi un passage sur la peur dans le spectacle. Faut n'ayez pas peur. Donc c'est encore une fois le spectacle me sert aussi à moi. J'y vais quoi. Mais et puis oui. Les gens aimeront, n'aimeront pas. L'autre fois j'ai loupé, pas dans le spectacle, mais loupé des remerciements que je ferai ce soir en remerciant celles et ceux qui ne croient pas spécialement en Dieu ou qui appartiennent à une autre religion et qui m'ont écouté pendant 1h05 parce que c'est aussi très important de les remercier. J'ai loupé parce qu'il y avait plein de choses à dire.
Bien voilà, sûr.
Voilà. Donc voilà, c'est aussi très très important. Maintenant voilà, c'est d'aller au-delà de sa peur. Et de dire ce qu'il y a à dire. Mais ce métier est très sécularisé, c'est très compliqué.
Et la peur dans la solidarité, c'est aussi présent, j'imagine.
Oui, bien sûr. C'est la peur de ne pas être à la hauteur. C'est la peur de l'échec. Et c'est des choses qu'on connaît au quotidien. C'est la peur de se confronter soi-même aussi à ses propres fragilités et aux difficultés auxquelles les personnes avec qui on travaille sont confrontées elles au quotidien. Donc oui, c'est quelque chose, je crois, qu'on connaît. Mais Paul le disait, l'annoncer aux Juifs et aux Grecs. On le dit aujourd'hui, en fait, aux croyants et aux non-croyants, à la diversité des croyants. On a effectivement effectivement, c'est à partir du moment où on croit que c'est une parole qui nous porte, qui nous fait vivre, qui donne du sens, on a envie de la partager avec avec tous les gens que l'on croise et qui croisent notre chemin. Moi, cette phrase du juste vivra par la foi, c'est vraiment une phrase qui me porte parce que voilà, je crois qu'une quel que soit le moment où on est dans les difficultés, se dire que finalement, justement, ce qui nous fait vivre, c'est la foi, c'est cette, finalement, cette espérance qu'un autre porte pour nous, notamment dans les moments difficiles, les moments de deuil. Se dire, mais est-ce que j'y crois? Moi, je sais pas toujours, mais ce que une certitude, c'est que lui croit en moi.
Et vous êtes nouveau délégué de la Fédération de l'Entraide Protestante. Vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce rôle, ce travail?
Oui, après 22 ans effectivement d'action sur le terrain, j'ai souhaité prendre non pas un peu de distance, mais un peu peut-être un peu de hauteur ou rejoindre une équipe qui accompagne justement les associations dans leur quotidien. Quand on est, je le disais tout à l'heure, un peu la tête dans le guidon, on se dit justement, il faudrait qu'on puisse réfléchir non pas simplement à mettre des pansements, mais à voilà comment on transforme vraiment la société, comment on fait pour qu'elle soit plus juste. Je crois que c'est vraiment le sens du travail de cette fédération qui se donne 3 missions. Animer, relier, permettre que les différentes associations, qu'elles soient petites, essentiellement portées par des bénévoles, ou alors très grosses, avec parfois 2000 ou 3000 salariés, puissent se retrouver, s'entraider, partager leurs difficultés, mais aussi leurs talents, les pépites qu'elles ont trouvées, co-construire ensemble, et c'est la deuxième mission, des actions qui permettent d'être innovants, de trouver, d'aller toujours chercher là où c'est le plus difficile, là où peut-être il n'y a pas encore de réponses qui sont données, et puis porter la parole, interpeller l'opinion publique, interpeller les décideurs, ceux qui ont le pouvoir à un moment donné pour essayer de faire changer les choses. C'est tout le travail du plaidoyer qu'on porte pour essayer d'inventer de nouvelles formes de solidarité et de fraternité.
Les défis, les enjeux plus particuliers actuels pour une fédération comme celle de l'Entraide?
Alors il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup en ce moment autour de la question du modèle économique des associations qui est très fragilisé. Ouais. On le voit avec la concurrence du modèle privé lucratif qui vient justement prendre les parts de marché, on va dire, notamment dans le domaine qui est le plus facile, là où il y a des possibilités, et puis laisse dans l'ombre celles qui sont plus difficiles. Sur l'accueil de l'autonomie, ça va être les personnes qui ont les moyens financiers de pouvoir se payer une maison de retraite et qui laisseront de côté celles qui sont en difficulté. Mmh. Il y a évidemment sur la question de l'autonomie, la question de la fin de vie qui se pose, avec la question de l'accompagnement de cette vie jusqu'au bout. Voilà, ça fait partie des grandes questions que l'on a, mais la faim revient de manière très forte et la question de la lutte contre la précarité alimentaire est aussi un des sujets sur lesquels on s'engage très fortement. Puis c'est le fondement de la Fédération de l'Entraide Protestante, c'est toute cette dimension justement d'engagement, de donner du sens, la dimension spirituelle, que l'on essaie de travailler avec l'ensemble de nos membres pour que ça reste une parole vivante qui anime nos actions.
Alors justement, eh bien, je voudrais vous proposer de prendre la casquette, cette fois-ci, de pasteur, pour terminer cette émission. Qu'est-ce que vous aimeriez laisser à nos auditeurs, non pas aux acteurs de la Fédération de l'Entraide, mais à tous nos auditeurs, et dans leur diversité, croyants, non-croyants, d'autres religions, enfin tous ceux qui écoutent cette émission ce matin?
Alors j'avais plusieurs choses, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui a déjà été dit tout à l'heure, c'est ce mot de « n'ayez pas peur ».
Ouais.
Voilà, je crois que quels que soient les défis qui sont devant nous, moi je crois que c'est à l'espérance que l'on est invité, et si j'avais un mot à donner, alors ça serait « n'ayez pas peur, allez-y et faites ce que vous pouvez avec les forces qui vous sont données ».
Eh bien, merci beaucoup Pierre-Olivier Dolino. Très bon courage dans vos fonctions à la FEP. Merci Laurent Suir.
Oui, merci beaucoup.
Le meilleur à vous aussi pour ces représentations. La force d'aimer, on le rappelle, chaque lundi à 19h jusqu'au 20 mai au Théâtre de la Huchette, dans le 5e à Paris.
Merci.
Quelques recommandations de lecture et la sortie d'un film pour conclure ce soleil et le rendez-vous protestant, avec tout d'abord au cinéma prochainement, le 1er mai précisément, un remarquable documentaire, tant sur la forme que sur le fond, « Même si tu vas sur la lune » de Laurent Rodriguez. Et Pierre-Olivier, vous verrez que cela fait écho aussi à vos engagements, votre travail. C'est la rencontre avec 4 jeunes étudiants réfugiés depuis 6 ans en France qui viennent de Syrie. Rencontre avec leur ami et professeur à l'université Paris 1. Ensemble, ils se souviennent souviennent de leur vie d'avant, du voyage et des débuts de leur nouvelle vie en France. Beaucoup de délicatesse, d'humanité, de profondeur et puis une très très belle réalisation. Je vous recommande donc très vivement, Même si tu vas sur la Lune, en salle le 1er mai. Côté livre, les deux nouvelles parutions de la jolie collection Petite Bibliothèque de Spiritualité chez Labor et Fides, avec d'abord Filigrane de Francine Carillo. Dans ce texte traversé par un souffle poétique puissant, la théologienne et poète Francine Carillo prétexte sa fascination pour les palimpsestes pour nous faire visiter le prétexte de nos vies. Les palimpsestes, ce sont ces textes écrits par-dessus un autre texte qui, tel un discret berceau, s'efface pour leur laisser vie. Francine Carillo nous donne ainsi à entendre le mystère limpide, manifeste et pourtant à peine déchiffrable qui soutient nos vies, les verticalise et les emmène toujours vers l'ouvert. Dans cette même collection, Fulgurance de Georges Aldas, sous la forme d'un abécédaire, le prolifique auteur à la fois poète, essayiste et traducteur Georges Aldas énonce l'essentiel en quelques mots, autant de petits cailloux blancs pour qui veut explorer la vie dans toute sa profondeur. De l'ancien secrétaire général de la Fédération protestante, Georges Michel avec son épouse Christine, un livre co-signé au titre évocateur « Marie, aimez vos femmes ». On est dans un registre très différent. C'est aux éditions Catalasso. Et après des décennies donc d'un modèle patriarcal montrant ses limites et parfois ses défaillances pour la société telle qu'elle a évolué, il n'existe aucune autre école que celle de la vie pour apprendre aux hommes à tenir leur rôle de mari, de partenaire, d'amant. Ce livre se présente comme une invitation donnée aux hommes à prendre une juste place dans leur relation aux côtés de celle qui fera les délices de leur vie. Et puis je terminerai en vous rappelant la sortie du livre « Toutes et tous à l'image de Dieu » aux éditions Olivetan, qui reprend l'ensemble des interventions des pasteurs et aumôniers de la fondation John Bost, interventions qui ont eu lieu dans Sola et le Carême protestant sur France Culture cette année.
Soleil de la liberté, Father Martin, Father Martin, c'est dans ton cœur qu'il a brillé pour illuminer nos destins. Et malgré la nuit de ta mort, Father Martin, Father Martin, sur l'univers il brille encore. Father Martin, Father Martin, le soleil de la liberté. Father Martin, Father Martin, dans notre ciel tu l'as jeté, après l'avoir pris dans tes mains, tu l'as pétri de tant d'amour. Father Martin, Father Martin, éclairera toujours. Father Martin, Father Martin, c'est un soleil.
Nous nous séparons ce matin avec cette chanson de John Williams, Father Martin, en écho à tout ce que nous avons dit autour de cette pièce La Force d'Aimer sur Martin Luther King. C'était Solae, le rendez-vous protestant sur France Culture, une émission proposée par la Fédération protestante de France, présentée par Jean-Luc Gadreau, réalisée par Émilie Vallat et avec Éric Boisset à la prise de son. Émission à réécouter cette semaine sur protestant-au-pluriel.org et à tout moment sur le site de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Je vous rappelle que ce matin, de 10h à 10h30, sur France 2, votre programme protestant, Présence protestante, et rediffusion ce matin d'un documentaire de Damien Boyer sur les influenceurs chrétiens. Mais sur France Culture, à suivre les informations talmudiques ensuite, présentées par Marc-Alain Wachnin. Et à moi de vous souhaiter maintenant un très bon dimanche à chacune et chacun. Au revoir.